Alors, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode Emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les journalistes du PIAF et les militants d'Attaque.
On aura au téléphone tout à l'heure Alain Marcu, permanent de l'association AC Agir Ensemble contre le chômage et la précarité, mais avant qu'il nous appelle en direct de la marche des chômeurs, nous allons écouter, comme d'habitude, les chroniques de JMJ.
Alors, la France est un grand pays démocratique et l'une des deux grandes forces démocratiques se distingue beaucoup ces derniers temps. Il y a un peu plus d'un mois, Jean-François Copé, à l'occasion des primaires parisiennes, se distinguait déjà avec son arrogance ambitieuse habituelle qui confine au ridicule. Ce menteur tricheur habituel a réussi à se dépasser. Est-il possible en effet de voir le président ou quasi-président d'une des formations principales d'un pays démocratique et une formation qui se dit démocratique dire sans embâge à une heure de grande écoute à la télévision, à l'UMP, nous n'avons pas l'habitude de la démocratie et du débat. Quel aveu, quelle rigolade. Ce serait presque drôle si justement l'UMP n'était pas l'une des deux formations qui ont vocation par notre système constitutionnel à se partager le pouvoir d'une démocratie. Et malheureusement, il n'a pas été le seul à l'UMP à faire cela. Alors, deuxième round, pourrait-on dire, l'actualité immédiate, c'est bien sûr Nicolas Sarkozy, la campagne de 2012 qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, et là aussi, on s'amuse beaucoup à l'UMP. L'UMP perd 11 millions d'euros, ça c'est l'aspect chiffré, et l'UMP est au bord de la faillite. Mais ce n'est pas le plus intéressant, à mon avis. Le plus intéressant, c'est de voir que ce personnage, Sarkozy, qui est quand même ancien avocat, ancien parlementaire, ancien ministre, ancien chef de l'État et qui était membre du Conseil constitutionnel de droit, donc dit sage, et censé donner son avis sur la loi, jusqu'à ce matin, puisqu'il a démissionné, se permet de critiquer une décision qui est une décision logique, qui ressort de la loi, et de dire qu'il y a un problème dans la Ve République parce que on applique la loi. Et ce n'est pas la première fois, on peut se rappeler qu'il y a quelque temps, Henri Guénaud s'en était pris au juge français qui instruisait l'affaire Bettencourt, et donc pour dénoncer l'acharnement des juges qui ne faisaient que leur travail. Qu'est-ce que c'est donc que ce parti, un des deux partis d'une démocratie, un des deux partis qui alternent au pouvoir depuis des décennies, avec des représentants, y compris l'ancien président de la République, qui viennent critiquer la justice quand elle fonctionne, pour dire « il n'est pas normal que la justice fonctionne quand cette justice vient chercher des nuages, justement, à ce parti politique ». Les partis politiques et les hommes qui les composent, lorsqu'ils ont vocation à alterner au pouvoir, seraient-ils au-dessus des lois, qu'ils votent eux-mêmes?
Alors, on vient de tomber à pieds joints sur l'UMP, mais on a un petit mot sur le PS qui attaque en ce moment la table ronde sociale.
Alors, le PS n'est pas en reste. Le PS qui a été, qui normalement est socialiste, comme son nom l'indique, qui normalement devrait défendre les droits sociaux, eh bien, est au pouvoir, on le sait. Il mène une politique très très sociale, comme on le sait. Et là, nous avons une table ronde, la deuxième table ronde organisée avec le patronat et les syndicats. Et à l'occasion de cette table ronde, on a des surprises. Surprise, par exemple, c'est que François Hollande, à la demande de Laurence Parisot, qui est la présidente du MEDEF, l'organisation patronale pour encore quelques semaines, eh bien, à la demande expresse de cette charmante dame très sociale, elle aussi, a accepté qu'il n'y ait pas de table ronde sur les salaires. Et c'est vrai qu'il y a une période où les gens gagnent tellement bien leur vie, ne même pas vouloir avoir une table ronde pour engager des négociations salariales est quand même quelque chose d'incroyable.
Toujours dans l'actualité, et pour parler du Parti Socialiste, une loi du PS vient d'être votée ce mois de juin, à moitié à l'Assemblée, à moitié au Sénat, la loi Fioraso concernant l'université. Cette loi a une particularité, c'est qu'elle ne remet absolument pas en cause toutes les réformes qui ont été fortement décriées pour autant, mises en place par la droite depuis 2003. Un enchaînement de textes qui ont complètement réformé tous les organes, autant les organes de recherche que le CNRS, que la loi LRU, en 2007, qui réformait totalement la gestion budgétaire des universités. Cette loi, qui a été décriée avec des mouvements importants des universitaires en 2009, finalement donc est remise en place par la loi Fioraso, et une question se pose, pourquoi les universitaires, pourquoi les étudiants, qui sont d'habitude si brillants, se taisent-ils? Alors, ils ne se taisent pas totalement, il y a quand même eu des manifestations tout ce printemps, à l'appel des collectifs de syndicats et d'associations, mais il n'y a pas eu, et c'est très net, de participation massive des universitaires. Alors on va prendre un exemple concret, c'était jeudi matin, l'université Paris 13, donc Paris 13 est une université qui regroupe quand même 23 000 étudiants sur des campus répartis en Seine-Saint-Denis, c'est l'université de la banlieue nord. Son conseil scientifique venait de pousser un cri d'alarme. La dotation du gouvernement est trop faible pour remplir les nombreuses missions d'une université, formation, recherche, etc. En fait, selon les nouvelles règles d'évaluation du ministère, cette université aurait dû progresser en dotation. Or, il manque pratiquement 10 millions d'euros à l'appel. Ça veut dire typiquement que cette université n'a pas pu, depuis déjà presque un an, embaucher les fameux vacataires qui permettent de boucher les trous pour mettre des enseignants face aux étudiants. En fait, depuis quelques années, un grand nombre d'universités ont peu à peu arrêté d'embaucher de nouveaux enseignants-chercheurs, ne remplacent plus les départs en la retraite et ferment massivement des formations. Par exemple, il y avait une promesse qui a été faite en 2012 à l'issue de la campagne électorale victorieuse pour le Parti Socialiste, une promesse de 1000 emplois créés dès la rentrée ou dans l'année 2012-2013. Ces 1000 emplois n'ont absolument pas été créés pour une bonne raison, c'est que les sommes prévues pour créer ces emplois ont été absorbées dans les déficits des universités. Alors, on peut rentrer un petit peu dans les détails pour savoir d'où vient ce phénomène assez récent. En fait, c'est la conséquence immédiate de la loi dite LRU de 2007, qui était la loi d'autonomie budgétaire. Alors, l'autonomie, ça signifie pour une université qu'elle a la capacité de gérer elle-même intégralement son budget.
C'est le même principe que les trois derniers plans pour l'hôpital qui ont vu la fermeture de centaines de lits pour les mêmes raisons.
Même logique. À la nuance près qu'on confie aux universitaires eux-mêmes le meilleur moyen de se taper sur les doigts. C'est-à-dire c'est eux qui doivent gérer globalement leur enveloppe budgétaire. Il n'y a même pas forcément un organe qui chapeaute les universités et qui vient leur dire ce qu'ils ont à faire. Ce qu'ils ont à faire, c'est donc mettre des enseignants face aux étudiants et payer des salaires. Or, les salaires, ils sont obligés de les payer, vu que c'est des fonctionnaires à coût fixe. Donc, pour pouvoir répartir le déficit, bah, tout simplement, ils arrêtent d'embaucher et ils ne remplacent pas les départs en retraite. C'est aujourd'hui le cas dans de nombreuses universités à travers la France et le concours habituel au printemps de recrutement a été cette année celle des vaches maigres. Alors, pourquoi est-ce que cette logique n'a pas poussé encore les universitaires dans la rue? Ça serait un petit peu long pour entrer dans les détails, mais on peut quand même mettre un ou deux exemples. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'université française est morcelée. On avait avant une profession qui était relativement uniforme sur le territoire national. Aujourd'hui, entre une université au centre de Paris ou justement une université comme Paris 13 dans le nord de Paris, on n'a pas du tout le même fonctionnement, les mêmes missions à remplir. Et on va dire qu'un universitaire au centre de Paris est plus heureux qu'un universitaire en grande banlieue. Donc le système est totalement différent. Pareil pour Paris et hors Paris. Des universités comme Strasbourg ou Caen sont aujourd'hui en déficit, alors que des universités connues, elles, arrivent globalement à bien gérer les choses. Mais même au sein même des universités, il y a une plus grande mise en concurrence entre les laboratoires, entre les ressources distribuées pour le fonctionnement, ce qui produit un état d'esprit qui n'est pas du tout unitaire comme il pouvait l'être il y a quelques années.
Tout ça, c'est la beauté du marché qu'on retrouve dans tous les aspects de notre société.
Tout à fait. On peut même aussi dire pourquoi les étudiants ne se rebellent pas. Tout d'abord parce qu'ils se rendent peut-être pas encore totalement des choses. Hein. Ils sont par des amphis assez importants. Qu'il y ait 100 ou 200 personnes dans les amphis, ils ne sont pas encore rendus compte de la difficulté. Mais il faut aussi penser qu'aujourd'hui, les étudiants travaillent beaucoup. 20% des étudiants ont un véritable emploi. Près de 50% d'entre eux ont un boulot à temps partiel. J'ai cherché même s'il n'y avait pas un chiffre qui permettait de monter une explosion brutale du nombre d'étudiants salariés. J'en ai pas trouvé en France, mais en 2012, il y a eu un bond de 36% d'étudiants supplémentaires qui essayaient de trouver un boulot en parallèle à leurs études.
Oui, ce qui recoupe le problème du chômage massif, puisque une partie des étudiants sont contraints de chercher des petits boulots parce que leurs parents eux-mêmes ont des difficultés soit salariales, parce que les salaires n'augmentent pas, et ou parce qu'ils sont chômeurs, tout simplement. Et la question ne se posait pas de la même façon il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, pourtant, on créait, avec les étudiants et les enseignants, une véritable démocratie universitaire avec des élections. Aujourd'hui, ces élections n'ont plus vraiment lieu d'être. On peut dire que la démocratie est en berne. Alors c'est encore un des effets de la loi LRU de 2007 qui donne un pouvoir quasi absolu à la liste sortante qui peut quasiment transformer les conseils universitaires en chambres d'enregistrement. D'ailleurs, il y a des démissions dans les conseils d'administration avec des très jolis textes en ce moment expliquant pourquoi est-ce que finalement les universitaires ont perdu le pouvoir non officiellement, vu que c'est toujours eux qui sont à la tête des universités, mais avec une logique libérale qui les contraint à appliquer eux-mêmes les bons moyens pour détruire cette université.
Ben, finalement, on retrouve dans l'université, comme dans l'hôpital et dans tous les pans de notre société, les mêmes travers que dans la Ve République, dans laquelle le pouvoir est confisqué et dans laquelle le véritable souverain qui sont les électeurs ne peuvent plus diriger quoi que ce soit, c'est verrouillé. Et finalement, cette logique est la même.
Et si on veut mettre une petite note d'espoir, c'est quand même le fait que finalement une situation où les universitaires sont pas heureux, les étudiants ne sont pas heureux, ça peut rappeler ou non plus le pouvoir d'ailleurs, hein, ça rappelle un peu, on va espérer, le temps juste avant 1968. Rêvons un peu. Alors, nous avons maintenant en contact notre invité téléphonique.
Salut
Alain. Alain Marcu, qui est permanent de l'association Agir Ensemble contre le chômage et la précarité, et qui nous appelle en direct de la Marche des chômeurs.
Eh ben oui. Donc là, donc la Marche des chômeurs, elle a démarré le 10 juin à La Réunion, où il y a un collectif, en l'occurrence, puisque c'est très unitaire, un collectif du MNCP qui a commencé à marcher pendant 5 jours. Et ils ont bien transpiré, ils ont vraiment marché une trentaine de kilomètres par jour là-bas. Et on rejoint Montpellier, et de là, donc le 17, on démarrait une marche de Mulhouse, Strasbourg, Colmar, Saint-Dié, Saint-Dizier, donc la marche de l'Est, et puis la marche du Sud qui est partie de Montpellier, et qui a monté par Castres, j'ai un trou de mémoire, jusqu'à Clermont-Ferrand, Orléans, etc. Voilà.
Clermont-Ferrand pour être solidaire des ouvriers Michelin qui vont être ou qui sont déjà licenciés.
Voilà. Et d'ailleurs, ça fait partie des nombreux contacts qu'ils ont eu avec des boîtes en lutte, hein. Et notamment, ils ont été accueillis par les Michelin, mais également, j'ai un trou de mémoire encore sur la ville parce que j'ai pas pris toutes mes notes, mais par des retraités mineurs CGT qui avaient été licenciés dans le secteur aussi. Et ça a été des moments vraiment très très émouvants, donc dont on parlait là, donc ce soir, hein, puisque c'était le meeting de Libre Parole, dont le thème était la culture et le chômage, l'accès à la culture pour les chômeurs, qu'est-ce que la création, etc. Donc, alors certains doivent peut-être s'en rappeler. À la marche de 97, il y avait un marcheur du sud de la France qui marchait pas mal et puis prenait un peu d'avance et dans son camion faisait une chaussette. C'était donc son surnom, est arrivé à Amsterdam avec une chaussette qui doit faire quelque chose comme 4 et qui est inscrite au livre Guinness des records. Et il avait tout un discours sur la production en dehors du travail. Et et donc il est intervenu bien sûr ce soir puisqu'il a refait cette marche qui venait de Montpellier, là, cette marche du Sud. Et donc,
cette marche qui est donc arrivée sur Paris depuis 2-3 jours et qui a fait des différentes villes.
2-3 jours, oui, tout à fait. Et donc, il y a eu ça a tourné à Aubervilliers et à La Courneuve, puisque donc, il faut quand même citer toutes les associations et syndicats qui se sont associés à cette initiative. Il faut dire que l'historique, ça a été en fin de compte une assemblée générale du MNCP qui a lancé ça en disant il y en a marre, on n'est pas reçu. Chaque fois qu'on en demande avoir un rendez-vous, notamment celui qui a fait le rendez-vous qui a fait déborder le vase, c'est quand on a été viré Manu Militari de la NPE qui est à côté de la NPE, pardon, du Pôle emploi de la Bastille, où on voulait être reçu par héros pour apporter la parole des chômeurs en dehors des grosses instances syndicales et patronales, puisque la parole des chômeurs est différente. Dès qu'on passe dans le monde du chômage, elle est différente. Et puis bon, on a aussi des revendications, parce qu'il y a des gens qui ont faim, Il y a des gens qui ont des indus, on demande des moratoires. Enfin, il y a toute une liste de revendications que vous pouvez trouver sur le blog Marche au singulier, Marche des chômeurs 2013. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous pouvez le retrouver.
Et qui est associé à une pétition aussi avec un plan d'urgence, donc toutes les propositions concrètes qui ont été faites.
Absolument. Absolument. Et donc là, bien, il y a le MNCP qui était donc à son âgé, mais il y a également AC, également l'APES, qui a notamment accueilli la marche du Sud dans le département 94, pendant deux jours, à Morsang-sur-Orge, où il y a un collectif de chômeurs du coup qui se crée. Ils ont également été du côté de Vivry, dans les cités où il y a effectivement plein de gens, suivant l'expression consacrée, le 10 du mois, le frigo claque du bec, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment faim, quoi. Donc ça, c'était la peste, mais également parce que ça fait partie maintenant depuis, je vais dire au moins deux ans, dans la plupart de tous les tracts, on rajoute aussi que la souffrance est des deux côtés du comptoir. N'oublions pas qu'il y a des travailleurs de Pôle emploi qui ils n'ont pas de boulot à offrir. Hein. C'est désespérant pour eux dans des bassins d'emploi. Et donc, il y a des suicides des travailleurs, il y a des dépressions. La violence, elle est aussi des deux côtés, puisque des gens désespérés dirigent leur violence parfois vers des travailleurs de Pôle emploi. Et les travailleurs de Pôle emploi, des fois, pour se blinder, deviennent complètement fermés. Voilà. Donc, ils subissent la violence. Nous subissons la violence. Je le sais par des copains syndicalistes qui disent, quand on soit quelqu'un qui est vraiment dans la merde et qu'on peut vraiment rien faire parce qu'on a fermé toutes les solutions et qu'il n'y a plus que l'aide sociale, c'est souvent que les travailleurs vont aller pleurer dans les chiottes parce que ça devient insupportable, quoi.
Et en rappelant
également des travailleurs sociaux en général, hein, voilà.
Et en rappelant le 8 juillet de l'an dernier, l'immolation de Jamal Chahab à Nantes.
Voilà, donc là il devait y avoir quelque chose à Nantes le 20, qui était le début de la conférence sociale. Bon, ça correspondait pas, il y avait des problèmes avec les syndicats, mais il y a quelque chose, et puis il y a toujours un contact avec la veuve de Jamal Chahab, sur une procédure éventuelle en cours, qu'on est en train d'essayer de monter. On a quelqu'un notamment à AC qui est très très fort en juridique, qui est en train de monter ça de manière, parce qu'il est hors de question que ça passe comme ça sous silence, quoi. Il y avait non-assistance à personne en danger. Mais... Bon, le cas de Jamal Chahab est le cas le plus visible. On retrouverait également dans les mouvements de chômeurs, il y a le site qui est un site plus d'information qui est Actu Chômage, qui avait interviewé un sociologue et qui ce sont des statistiques et ils savent qu'il y a au minimum trois personnes qui se suicident par jour sur la pauvreté, quoi, sur les conséquences directes de la pauvreté, du chômage. On a peut-être tous entendu cette anecdote. C'est parce que c'est devenu des anecdotes aujourd'hui, c'est vraiment une horreur, d'une dame qui était à la retraite, qui pouvait plus payer son loyer, et quand le jour où on est venu, où les huissiers se sont pointés avec les flics pour l'expulser, elle s'est suicidée chez elle. Donc des drames comme ça, il y en a plein qui sont complètement invisibles. Donc le but de la marche était, il y en a marre d'être invisible, il y en a marre de ne pas être écouté. Et donc, ça a traversé... Les marcheurs ont rencontré des entreprises, ont rencontré des chômeurs, étaient présents, par exemple, ce soir, des représentants du syndicat Sud Culture de Virgin, étaient présents aussi un retraité mineur, étaient présents des intermittents du spectacle également, qui ont reçu à Montreuil. Tous ces réseaux existent, et puis... avec l'idée que plus ça apparaîtra dans la presse, moins les chômeurs seront invisibles.
Et d'autant que les chômeurs et les mouvements ont des choses à dire très précises. Donc tu as parlé de l'aide. J'ai vu dans le plan d'urgence des fonds spéciaux d'urgence, des déclenchements automatiques d'allocations, des revenus minimums pour les jeunes.
Ouais.
Et même des choses encore plus larges, comme rappeler que le temps de travail réduit à 32 heures, ça serait quand même des solutions concrètes qui résoudraient voilà, beaucoup de problèmes.
Les solutions, ouais, tu as parfaitement raison de rappeler ça, puisque c'est vrai que le partage des richesses, partage du temps de travail, ben oui, c'est les 32 heures, c'est les salaires, et puis dans tous les cas, puisque la société telle qu'elle fonctionne avec le système capitaliste ne permet pas à des gens de vivre de leur travail, déjà que les gens qui travaillent ont du mal à vivre, qu'il y ait un revenu décent et surtout individualisé, puisque je prends le cas le plus désespérant pour des gens qui sont en famille, c'est les revenus du couple pour les ASS. Quand on est en fin de droit, on n'a pas le droit aux ASS parce que c'est basé sur les revenus du ménage. Et si l'un des deux travaille, eh bien le deuxième n'a le droit à rien. Donc là encore, il y a un problème d'individu, c'est un problème de société. C'est est-on sur l'indépendance financière de chaque individu? Et si des boîtes font des super profits, il n'est pas normal, bien entendu. Et là, je suis très, très 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 gentil et diplomate, il n'est pas normal que des gens aient faim. Donc voilà, on est sur le revenu et puis sur des pistes de solutions. Et la bagarre, elle est vraiment pour qu'on arrête de nous imposer cette crise et cette dette qui ne sont pas la nôtre. Il faut savoir qu'on est, par rapport au peuple grec, on a encore de la marge, mais on y va franchement, hein, comme les Espagnols, comme les Portugais. C'est les fourches codines de ce qu'on appelle la Troïka en Europe qui pousse tous les gouvernements à laisser les peuples s'affamer. Alors la Troïka, je rappelle quand même que c'est un terme qui est encore très, très, très populaire en dehors des vieux militants, des milieux militants. C'est les normes économiques du FMI, donc le FMI, Madame Lagarde aujourd'hui. La Banque Centrale Européenne, la BCE. Et c'est les gouvernements qui appliquent ces politiques, notamment la réduction des services publics, les licenciements de fonctionnaires, le non-remplacement des postes, la suppression des crédits de culture, puis tous les crédits de services publics, les transports, enfin voilà. Donc ça, c'est les fourches collines de la Troïka, et on jette des gens à la rue, dans le chômage. En plus, il y a un autre raisonnement à avoir, hein, c'est que les sociétés, les entreprises font des super bénéfices en jetant les gens à la rue. C'est-à-dire quand on a jeté 5 salariés, on a gagné 200 000 euros à reverser aux actionnaires. Quoi. C'est le coût d'un salarié multiplié par 5, hein, c'est 200 000 euros. Voilà. Donc demain, c'est la dernière, le dernier jour. À partir de 10h30 à la porte de Clichy, les chômeurs, les marcheurs vont se regrouper avec toutes les associations qui ont appelé et également toutes celles qui soutiennent et tout ce petit monde, on va se retrouver place de la Rotonde à Stalingrad. Voilà.
Et je crois qu'il y aura pas mal de groupes. Il y aura entre autres la compagnie Jolimum.
Oui, tout à fait. On a longuement discuté. On va pas trop charger les interventions de manière à ce que ce soit quand même un moment festif. Un pique-nique et tout ça sous le soleil, bien entendu. Et ça se terminera à 18h. Donc voilà, le parcours, c'est Porte de Clichy. À la place de Clichy, nous rejoindra une batucada. Alors là, c'est à géométrie variable. Hein. Ça peut être 15 personnes, mais ce sera plutôt 30 et peut-être plus. Donc ça va faire un joyeux ramdam pour rejoindre de la place de Clichy à la place de Stalingrad.
Et toutes les informations sont sur le site blog Marche des chômeurs, où toutes les infos pour la manif et le rassemblement à Stalingrad sont en ligne.
Eh ben voilà. Voilà qui est dit. Donc, mais c'était très émouvant ce soir de revoir notamment Patrick Spadoni de Canal Marche, hein, qui ont fait aussi des images et qui avaient suivi la marche de 97, celle de 99. Ce qui est aussi un peu désespérant, c'est qu'on retrouve un peu les mêmes, quoi. Mais bon, on espère que ce genre de manifestation vue par des chômeurs fera qu'ils aient moins la tentation même dans la merde dans laquelle ils sont, qui en a marre de rester invisibles, quoi. Si tous les chômeurs étaient dans la rue, ça ferait un sacré ramdam.
Et des chômeurs, il y en a dans toute l'Europe.
Et il y en a dans toute l'Europe, puisqu'on estime à... on va savoir. Les chiffres officiels sont ceux de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qui a des règles qui correspondent grosso modo à la catégorie A de nos statistiques. C'est dire que, d'autres réseaux contre la pauvreté estiment qu'on est quand même à 100 millions de pauvres sur toute l'Europe. Donc là-dedans, bien entendu, il y a énormément de chômeurs.
Ok, ben on te remercie Alain pour ce coup de fil en direct de la marche des chômeurs qui sera donc demain à Stalingrad avec une partie festive. Merci.
Avec une partie festive. Salut à tous, bonne émission.
Merci.
Merci.
On enchaîne avec une petite pause musicale pendant que certains marchent pour défendre leurs droits et les droits de tout le monde au partage des richesses. Il y en a certains qui marchent comme des cons pour être le premier, pour être celui qui mange par-dessus les autres. Où vont les cons quand ils sont morts ? Bikini Machine.
Bonsoir, vous êtes sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Monde d'Emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes d'Attaque, du PIAF et des militants d'Attaque.
Et on continue avec l'austérité à propos de la Grèce, puisque cette austérité en Grèce, imposée par la fameuse Troïka, Fonds monétaire international, Commission européenne, Banque centrale européenne, a considérablement affaibli le système de santé publique. Le budget de la santé a été réduit de 40% depuis 2008. Le nombre d'hôpitaux publics est passé en 2 ans de 137 à moins de 80. Et comme il faut un emploi pour bénéficier de la sécu, l'explosion du chômage prive aujourd'hui un tiers des Grecs de l'accès aux soins. Une des conséquences, c'est que la mortalité infantile, qui était en baisse continue jusqu'en 2008, est passée de 2,7 pour 1000 en 2008 à 3,8 pour 1000 en 2010. Face à cette situation, une trentaine de cliniques sociales sont nées dans toute la Grèce pour offrir des soins à tous les exclus du système de santé. Dans ce pays qui est frappé par la crise économique, eh bien ces cliniques fonctionnent hors du système économique. C'est-à-dire que tout le personnel est bénévole et se débrouille pour avoir des médicaments sans les acheter. Par exemple, les gens apportent des restes de prescriptions ou pour des produits qu'on garde plus rarement chez soi, comme les vaccins, les cliniques lancent des appels à dons via les réseaux sociaux. Ces cliniques sociales ne se complaisent pas pour autant dans l'humanitaire charitable. Une des fondatrices de ces cliniques le disait lors de l'Alter Sommet à Athènes en juin 2013. « Nous nous sommes donné une autre mission. Notre objectif est que ce type de structure disparaisse le plus vite possible lorsqu'un système de santé publique sociale sera mis en place. Alors nous cherchons aussi à faire en sorte que les patients restent debout, qu'ils gardent leur dignité et qu'ils se mobilisent pour un autre monde où ils auront droit aux soins. Nous luttons donc avec les patients pour le droit à la santé. » Et cette reconquête du droit à la santé, cette disparition de ces structures provisoires, est d'autant plus urgente que les cliniques sociales n'ont pas les moyens de réaliser tous les soins, en particulier les opérations lourdes ou bien le traitement de maladies du type cancer. Alors pour les aider, vous pouvez aller sur le blog de Solidarité Franco-Grec et vous trouverez toutes les infos sur les cliniques solidaires.
On reste dans le thème de la santé avec une intervention avec un texte poétique de Patrick.
Il faut les combattre. Vous pouvez les combattre. Vous devez les combattre. Ris de ridicule, sillons, cicatrices qui vous menacent. Votre capital jeunesse en dépend. Le capital, c'est capital. Il faut capitaliser. Le capital, c'est capital. Il faut, par de bons produits, préserver votre capital, enrichir votre capital, même si, parfois, quelques effets secondaires peuvent se produire. Lesquels ? Des œdèmes, des hématomes, des ecchymoses, voire des nodules, des papules, parfois des inflammations, des décolorations ou de la cellulite faciale. Peut-être des granulomes et quelques allergies, quelques affections staphylococciques, et puis aussi des réactions hypertrophiques, des angiodèmes, des sarcoïdoses, des téléangiectasies, pour ne citer que les plus courantes. mais peut-être aussi, bien sûr, les Esquimauses, les Sarkozydoses, les ennemis d'amis, plus rarement les papabules, les facilulites, les allélections, les éléfections. On a signalé aussi quelques estalophilococcis, ainsi que de rares angiectasies ou télévisextasies, et beaucoup plus rares les angiectasiés. Mais bon, qui ne risque rien à rien.
Après cette leçon de diction, nous continuons avec la santé. Qui ont parlé tout à l'heure de la Grèce, Gaël, mais maintenant on va parler de la santé en France.
On parle des vieux, on continue à parler des vieux. Parce que vous l'avez entendu sur tous les tons, sur toutes les stations de radio et toutes les chaînes de télé, l'espérance de vie augmente, donc il faut travailler plus. C'est logique. Même François Hollande le dit, c'est vous dire si c'est vrai. Et les chiffres de l'INSEE le montrent, puisque l'espérance de vie continue bien à augmenter. Pour les hommes, elle est passée de 76,7 ans en 2004 à 78,3 en 2010. Pour les femmes, c'est passé de 83,8 en 2004 à 85,3 en 2010. Mais ce qui compte quand on part en retraite, c'est pas seulement l'espérance de vie, c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans limitation d'activité. Or, cette espérance de vie en bonne santé, elle stagne depuis 2004. Elle oscille entre 61,5 et 62,8 pour les hommes, entre 63,5 et 64,6 pour les femmes, ça dépend des années. Et la tendance est même à la baisse depuis 2008, et au niveau européen, les chiffres sont similaires. Donc reculer l'âge de la retraite, que ce soit par une augmentation de l'âge légal ou un allongement de la durée nécessaire de cotisation, ça revient à priver une bonne partie des travailleurs de la possibilité de profiter pleinement de sa retraite. C'est-à-dire que vous partirez en retraite à 67 ans, complètement abîmé par le travail, vous passerez 3 ans au lit et vous mourrez. On pouvait tout aussi bien aller directement de la case travail à la case cercueil sans passer par la case grabataire.
Très beau raisonnement, très triste.
Ouais, c'est pour ça, je comprends pas les Grecs. Pourquoi faire des cliniques sociales s'il y a plus de morts, il y a moins de chômeurs?
Pourquoi les solutions les plus simples ne sont-elles pas celles qu'on emploie?
En plus, Swift le disait il y a très longtemps pour les Irlandais, ils pourraient manger leurs enfants.
Humble proposition.
Alors toute cette logique, c'est justement la logique néolibérale. Alors on va tester notre logique néolibérale tous ensemble. Parce qu'évidemment, cette logique néolibérale, c'est celle que nous assènent tout le temps les organismes financiers. On en a parlé tout à l'heure, le FMI, le Fonds monétaire international, les banques mondiales, la Banque centrale européenne, et puis nos élus ou nos délégations d'élus à la Commission de Bruxelles. Ils emploient tous un langage logique. Il y a des donc, des alors dans tous les textes. Et en plus, ils nous font des infos, comme une caricature de prof de maths, ils nous font des cours à grands coups de règles sur les doigts, enfin des règles économiques à mettre en œuvre. Alors, on va suivre un peu la logique. Alors, je me suis référé à un texte de Michel Husson.
C'est ce qu'on appelle avoir des règles douloureuses.
Des règles douloureuses, bien sûr. Donc, je suis parti d'un texte de Michel Husson que vous pouvez trouver dans la lettre scientifique du Conseil scientifique d'attaque numéro 53. Et on va voir que finalement le raisonnement des libéraux n'est pas logique pour un sou. Alors, partons par le premier postulat. Hein. Postulat, c'est vraiment le mot qui signifie base qu'on n'arrive même pas à prouver. Enfin, néanmoins, le postulat de base de toute l'économie d'aujourd'hui, c'est la croissance crée l'emploi. Hein. On vient de parler de la marge des chômeurs. On peut imaginer qu'aujourd'hui, la logique aussi s'emploie à l'envers. Pas de croissance, pas d'emploi. Mais enfin, l'histoire donne raison à cette idée. Cette idée qui nous dit que juste après-guerre, une grande part de l'économie était en pleine croissance et il y avait le plein emploi. Donc on part de ce postulat, croissance crée emploi. Alors admettons-le, un postulat, il n'y a pas besoin de le prouver. Donc dans cette logique-là, les gouvernements européens n'ont pas d'autre objectif que la croissance économique. Et d'ailleurs, ils promettent tout le temps des pourcentages de croissance importants, 3% qui deviennent 2% parce qu'ils n'arrivent pas à tenir, et on n'arrive même plus à savoir si la croissance sera positive dans quelques temps. Et pourtant, toutes les décisions que prennent les gouvernements aujourd'hui sont totalement opposées à la croissance. D'un côté, ils mettent croissance dans leur discours, mais la pratique, c'est austérité et baisse du coût du travail. Alors, regardons leur logique. L'austérité budgétaire d'un État, ça empêche l'investissement. Investissement en route, en autoroute, en train, en transport, en hôpitaux, pour que les gens soient en meilleure santé, pour produire mieux. Bref, quand on fait de l'austérité budgétaire, on ne permet pas le développement de la croissance, on peut même dire que ça la freine. c'est une absence de cohérence. Hein. Des pays comme l'Allemagne ont même mis des séries de mesures pour le baisse du coût du travail. Et ces mesures rognent sur le pouvoir d'achat. Et quand on rogne sur le pouvoir d'achat, on rogne sur la consommation. Et quand on rogne sur la consommation, on rogne sur la croissance. Et quand on rogne sur la croissance, on ne peut plus avoir de rentrée fiscale importante. Plus de rentrée fiscale importante, eh bien on est obligé de faire l'austérité. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la logique, hein, je vous le refais. Austérité empêche de développer l'emploi. Moins d'emplois signifie moins de consommation et de croissance. Sans ces emplois et sans cette croissance, l'État voit baisser ses ressources fiscales, ce qui le conduit à davantage d'austérité. Et on tourne la boucle néolibérale à plein. Alors, on peut quand même juste faire un petit commentaire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent à tout prix baisser le coût du travail? C'est quand même, a priori, pas si logique. Hein. Leur but, c'est de développer les exportations. Mais développer les exportations en Europe, alors que la main-d'œuvre est si peu chère en Asie, ça n'arrive pas aujourd'hui à rendre les produits européens réellement concurrentiels. D'autre part, le marché mondial est au ralenti. Et les entreprises, quand ils voient arriver avec bonheur une baisse du coût du travail, ben on continue à virer des gens et on rémunère les actionnaires. Hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Alain Marcus. Et pourtant, on peut conclure que si les libéraux ont tort, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est eux qui crient le plus fort. Ils ont la raison de ceux qui assènent le raisonnement illogique et qui proposent des discours dangereux en permanence. Qu'est-ce qu'on peut leur opposer à ça? Ben c'est une autre logique, évidemment, une logique qui remet en cause ce cercle vicieux de la croissance. D'abord, cette fameuse croissance, est-ce qu'on en veut? Notre Terre n'a-t-elle pas déjà dépassé ce qu'elle peut porter de pollution et d'objets inutiles? Essayons de partager déjà les nombreuses richesses dont on dispose.
Il y a une autre chose très illogique dans le libéralisme, c'est que pour engraisser les actionnaires et ceux qui sont déjà riches, on crée des pauvres, et le problème c'est que ce sont les pauvres qui consomment. Donc par rapport au credo de la croissance ultralibérale, il faudrait donc mieux alimenter les pauvres pour que les riches puissent devenir encore plus riches, parce que là ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, c'est-à-dire qu'à force d'appauvrir le monde, un jour, même les riches vont plus avoir de richesse à piquer.
Ils devront manger les pauvres.
Moi, je pense qu'il faudrait créer une assurance spéciale riche pour l'avenir, quoi.
Oh, vous avez une logique absolument détestable. Alors, on va tester une autre logique, celle de Chanson Plus Bifluoré, qui va nous expliquer comment marche le moteur à explosion.
Et un, et deux, et un, deux, trois. Quel est le principe du moteur à explosion? L'énergie thermique. Une vraie révolution.
Retour sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et nous reprenons le cours de notre émission avec un thème un peu différent. Nous allons parler, à la suite de l'événement du décès de Clément Méric, de l'extrême droite et de la montée de la pensée d'extrême droite en Europe. Alors tout d'abord, repartons des faits sur la mort de Clément Méric, Jean-Marc.
Alors Clément Méric, c'est un militant antifasciste. Il y a heureusement des groupes antifascistes en France et en particulier en région parisienne qui luttent contre justement le fascisme ordinaire et les groupes ultra-violents qui existent toujours en France et qui même ont tendance à se multiplier ces dernières années. Alors Clément Méric est mort pour des raisons absurdes, comme toutes les morts dans ce genre de circonstances. Il est mort d'un coup de poing et d'une mauvaise chute. Peu importe les circonstances, ça fait un mort de plus parce qu'on a tendance à isoler les faits divers dû à l'extrême droite, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une longue liste de morts dues à l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. On aurait pu croire que cette idéologie était définitivement morte, et ce n'est pas le cas. Et la banalisation de la parole et des idées de l'extrême droite en France depuis une vingtaine d'années, comme en Europe d'ailleurs, pose un certain nombre de questions. Et l'autre question que pose la mort de Clément Méric, c'est au niveau du traitement par la presse et par les hommes politiques de cet événement, de ce fait divers dramatique, avec un amalgame que font journalistes et hommes politiques entre l'extrême gauche et l'extrême droite, comme s'il s'agissait des deux plateaux d'une balance, ce qui est complètement inepte.
Et bien sûr, extrêmes se rejoignent quand même.
Hein. Oui, bien sûr. Et bien sûr, ça pose une question de fond qui est celle du fonctionnement d'une démocratie aujourd'hui.
Alors pour défendre la démocratie, les grands partis n'ont eu que ça à la bouche, il fallait dissoudre les groupuscules d'extrême droite. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose, ça ?
Alors, les gouvernements sont en général très démunis face à ce genre d'événements parce qu'ils veulent réagir pour ne pas avoir l'air indifférents, mais finalement, ils ont assez peu de cordes à leur arc et tout ce qu'ils peuvent proposer, c'est l'interdiction ou la dissolution dans le cadre de la loi. Sauf que le cadre de la loi est très restrictif, heureusement d'ailleurs, puisque sinon ce serait une atteinte à la liberté, aux libertés fondamentales politiques et à la liberté d'expression. Donc, il est difficile de dissoudre des groupes. Et ensuite, la portée est profondément symbolique, puisque lorsqu'on dissout un groupe, personne n'empêche les membres du groupe de se reformer 15 jours plus tard sous un autre nom. Alors, la deuxième question, c'est de savoir quel groupe dissoudre. Est-ce qu'on dissout juste le groupe incriminé ou tous les groupes d'une mouvance, puisque l'extrême droite, et en particulier l'extrême droite radicale et violente, est composée d'une nébuleuse de centaines de petites organisations qui parfois ont 10, 15, 20 adhérents, parfois 3 ou 4, et qui se refondent, qui s'échangent les adhérents les uns les autres. Alors, qui dissoudre ? Est-ce qu'on dissout tous les groupes d'extrême droite ou seulement celui incriminé ? Troisième question de la dissolution, on peut dissoudre effectivement ces groupes ultra-violents qui sont heureusement ultra-minoritaires aussi, mais est-ce qu'on ne doit pas se poser la question de dissoudre des partis politiques qui font beaucoup de voix aux élections ? Le Front National, bien sûr, on y pense, puisque on a bien vu toutes les implications et tous les échanges entre le Front National et ces groupes ultra-violents qui assurent souvent le service d'ordre du Front National, par exemple, qui sont dans les manifs du Front National, même s'ils n'apparaissent pas avec leur logo. Deuxièmement, un autre parti auquel on pense peut-être moins de prime abord, c'est l'UMP. L'UMP qui a été une machine à recycler les éléments violents d'extrême droite depuis les années 60, puisque nombre de gens qui ont fait partie de l'OAS, d'Occident chrétien, sont devenus des élus de l'UMP, y compris des élus nationaux et parfois même des ministres. Alors la dissolution annoncée par des groupes politiques, c'est une bonne intention. C'est le minimum, pourrait-on dire, mais est-ce qu'on ne doit pas chercher les racines du mal ? Et quand un monsieur qui a été plusieurs fois inculpé pour des et même condamné pour des faits de violence de l'extrême droite devient ministre de la Défense dans un gouvernement de droite, est-ce que ça ne pose pas une question, là aussi, sur le fondement de la démocratie ?
Enfin, là, tu peux te faire nommer acide sulfurique, tu veux dissoudre 60% de l'opinion française représentée par les partis. C'est, on a même plus besoin de faire d'élection.
Peut-être pas dissoudre l'opinion, parce que l'opinion est souvent manipulée et les gens sont de bonne foi, mais par contre, les hommes politiques qui véhiculent ou qui excusent les comportements d'extrême droite, il faudra peut-être se poser des questions en profondeur.
Alors cette question, c'est peut-être pas tant dissoudre un parti, mais se poser la question, pourquoi les idées d'extrême droite deviennent aussi banales ? La banalisation de cette haine est dans tous les partis. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de concret à dire sur cette peur de la banalisation ? Est-ce qu'elle est naturelle ?
Je crois que la banalisation est aussi un instrument des deux grands partis qui alternent au pouvoir. Et on retombe sur les chroniques précédentes et notamment sur la pensée libérale. C'est que la pensée libérale est dans le mur. Donc pour ne pas avoir de débat de fond sur l'économie et sur la société, rien de plus pratique que de laisser l'extrême droite s'exprimer avec sa violence et ses idées schématiques, binaires, complètement absurdes. Ça occupe le terrain médiatique et tant pis s'il y a des pots cassés. Tant pis si la société se délite, tant pis s'il y a des morts. Ça sert de paravent, pendant qu'on parle justement des thèses racistes de l'extrême droite ou de l'ultranationalisme, on ne parle pas de l'accord de libre-échange nord-américain, qui est une catastrophe.
Oui, on en a parlé régulièrement, n'est-ce pas Gaël ?
Oui.
On a fait des chroniques entières sur cette...
Mais tout le monde n'écoute pas FPP.
Ah, c'est ça, d'accord.
C'est l'un des problèmes, d'ailleurs, de notre société.
Et ils écoutent massivement les propos d'extrême droite qui vont, donc, on vient de le dire, du milieu de l'UMP jusqu'à Marine Le Pen et encore. Par contre, à l'autre bord, tu vas asséner une vérité, tu assènes que l'extrême gauche, elle, ne tue pas.
Oui, contrairement à ce qui a été dit à Société par, là aussi, des membres de l'UMP, du Front National, mais aussi par la majeure partie des journalistes qui essayent de représenter l'échiquier politique comme une espèce de balance avec d'un côté la gauche et la droite, ce qui est de plus en plus relatif, et de mettre au bout des deux bras de la balance l'extrême gauche et l'extrême droite comme si c'était la même chose, comme si c'était des contrepoids de l'un et de l'autre, les techniques ne sont pas du tout les mêmes. Si le discours est radical dans les deux cas, l'extrême droite tue, l'extrême droite violente, l'extrême droite fait des blessés, alors que l'extrême gauche a un discours radical, mais elle n'est pas violente. En France, il faut remonter très loin pour avoir une extrême gauche violente, il faut remonter à Action Directe. Et les membres d'Action Directe sont en prison depuis plus de 30 ans quand même.
Mais ceci dit, un discours de Jean-Luc Mélenchon à la télé pourrait donner une attaque cardiaque à une vieille dame qui lirait son Figaro.
Oui, mais enfin, si elle lit le Figaro, on ne peut plus rien faire pour elle. Donc, c'est l'un des gros problèmes qui est soulevé par l'affaire Méric, c'est justement le traitement par la presse et par le marigot des partis donc de pouvoir qui se renvoient la balle comme si l'extrême droite, justement, et ça légitime l'extrême droite. Parce que le fait de mettre en balance le Mélenchon et Le Pen, c'est pas anodin. Ça veut dire que pour l'UMP et le PS, c'est un moyen de se débarrasser de Mélenchon avec un discours qui est totalement réformateur au sens noble du terme, et en l'invalidant par le discours raciste et binaire et stupide du Front National. Et c'est comme ça aussi que, après ça, il devient presque légitime de parler de violence de l'extrême droite, comme si c'était une excuse parce qu'il y a des combats avec l'extrême gauche. Non, c'est pas vrai, l'extrême gauche ne tue pas.
Alors ce brouillard sur le débat, on peut pratiquement dire que la démocratie en Europe est complètement brouillée par ce message.
Oui, on pourrait encore se rassurer en disant que c'est malheureusement un mal français et qu'en dehors des frontières de l'Hexagone, ça va mieux. Malheureusement, on se rend compte depuis plusieurs décennies que l'extrême droite revient en force dans un certain nombre de pays européens et en particulier depuis 10 ans, aussi bien dans la partie ouest de l'Europe, qui est le vieux fond de l'Union européenne, que dans les nouveaux pays de l'est de l'Europe, où le nationalisme renaît à tout va et prend souvent des formes proches du fascisme et avec une floraison de partis ultranationalistes et de mouvements racistes. Et la crise en Grèce a été particulièrement violente à ce niveau-là. On parlait de la Grèce tout à l'heure. Et il y a quand même un parti qui se réclame du nazisme en Grèce, qui a fait de nombreuses voix, et il y a eu de nombreux morts parmi les travailleurs immigrés à Athènes et dans toutes les grandes villes grecques à la suite de la première flambée de la crise et lorsque le pays s'est effondré. Donc on voit qu'il y a un rapport entre la crise et la floraison de l'extrême droite. Ça, c'est un classique qu'on connaît depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse démocratique face à cela, parce qu'on a des partis qui, justement, s'occupent à masquer la vérité à la place de gouverner et de prendre des mesures pour renforcer la démocratie. Donc on peut parler d'une démocratie malade dans tout le continent, dans toute l'Europe, et il faudrait régler les problèmes économiques, bien sûr, mais aussi se poser des problèmes philosophiques et politiques. Comment refonder la démocratie en Europe?
Commentaire immédiat de Patrick, qui va nous lire un texte. Canard, connard.
Canard, 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 connard. Pas pareil, ne pas confondre. Canard et connard. Le canard est un animal. Le canard est un oiseau palmipède. Le connard est un être humain. Les pieds du connard ne sont pas palmés. Le canard est un journal. Le connard ne lit pas le journal. Le canard de presse est un bobard. Le connard est un jobard. Le connard ne lit pas le canard. On trempe un canard dans un verre, dans une tasse. On ne trempe pas un connard. On peut tromper un connard. Un canard est une fausse note. Un connard est aussi une fausse note. Un canard est une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle. Un canard est une mauvaise nouvelle. Le canard est sauvage ou domestique. Pour le canard est volaille. Le canard s'ébroue, le connard fait brouhaha. Le canard sent la rivière, l'étang, la mare, le lac. Le connard sent l'essence et puis le cigare. Le canard est à l'orange, le connard passe au rouge. Le connard est au gros rouge. Le canard peut être colvert, éder, macreuse, mandarin, milouin, pilet, sarcelle, souchet, tadorne. Le connard n'est que connard. Mais il y a de grands connards et des petits cons. Le connard est connu du canard, car le connard canarde le canard. Le canard ne canarde pas. Il est canardé. Le canard ne lit pas, ne va pas au cinéma, ne danse pas. Le connard lit, le vilain petit connard. Il regarde les films de Donald le connard, la soupe au connard, faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des connards sauvages. Le connard danse, danse la danse des connards. Le canard mange des herbes, du grain, du pain. Le connard mange du confit de connard, du magret de connard, du connard laqué. Le canard marche en canard. Le connard marche en connard. Le canard se dandine. Le connard peut aussi se dandiner. Le canard marche à la queue leu-leu, nage à la queue leu-leu. Le connard défile à la queue leu-leu. Le canard peut être boiteux. Le connard ne se trouve pas boiteux. Le connard s'encanaille. Cependant, le canard cancane, et le connard aussi cancane. Le canard peut nasiller. Le connard peut aussi nasiller. Le canard se livre à la parade nuptiale. Le connard ne se livre qu'à la parade. Mon canard est un hypocoristique. Ce connard est un euphémisme. Le féminin du canard est le canard. Le féminin du connard est la connarde. La femelle du canard est la canne. La femelle du connard est la connasse.
T'as oublié connard le barbant.
Il faut que vous associez pour faire des textes encore plus.
Espèce d'hypocoristique.
Allez, on termine l'émission. On termine l'émission et c'est la dernière en direct de Mode d'emploi pour cette saison 2012-2013 par l'agenda de l'été. Gaël.
Et on commence avec l'arrivée de la marche des chômeurs dont on parlait. Ce sera samedi 6 juillet, c'est-à-dire demain à 14h, place Stalingrad, avec un certain nombre de concerts. Guillaume tout seul, Joli Môme, Cash Leone, Tout Inferno. Vous trouverez plus d'informations sur marchechômeur2013.org.
Patrick.
Pour la renaissance de la nouvelle rôtisserie, repas de soutien, rencontre, animation, repas à participation libre. Venez soutenir la nouvelle rôtisserie, le restaurant au 3A, alternatif, associatif, autogéré. C'est le mardi 9 juillet à 19h30, la cantine, 331 rue des Pyrénées, dans Paris 20e.
Alors, fête pour les 6 ans du café associatif La Commune, dimanche 14 juillet à 18h, café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, Paris 12e. Plus d'informations, www.cl-aligre.org.
Si vous en avez déjà marre du Tour de France, faites l'Alter Tour. Ce sera sa 6e édition du 18 juillet jusqu'au 20 août. Il passe par le Loiret et la Nièvre, Lyon, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura et le Doubs. Tout renseignement, altertour.net.
C'est plus court, ils sont pas dopés.
Oui. Du vendredi 19 juillet au dimanche 21, les rencontres internationales des mouvements contre les OGM, c'est à Bouzy-la-Forêt, dans le Loiret. Plus d'infos sur monde-solidaire.org.
Troisième forum contre les grands projets inutiles et imposés, jeudi 25 juillet à Stuttgart, en Allemagne, bien sûr.
Festival de Joli Môme, La Belle Rouge, 3 jours de théâtre, cinéma, chansons, politique, musique et de fraternité du 26 au 28 juillet à Saint-Amand-Roche-Savine, Puy-de-Dôme. Renseignements donc www.compagnie-jolimôme.org. C'est génial, j'ai déjà fait.
Et j'ai déjà fait aussi l'Université citoyenne d'Attaque, rupture et transition, avec cette année à Nîmes sur le site Vauban du 26 au 29 juillet. Plein de conférences très intéressantes et à la portée de tout le monde.
Le camp No Border 2013 se tiendra à Rotterdam cette année. C'est organisé par le réseau No Border des Pays-Bas. Une semaine d'action, de débats et d'ateliers. C'est du 2 au 10 août 2013.
NDDL 2013, on ne lâche rien ni ici ni ailleurs. Rassemblement festif et militant autour des grands projets inutiles imposés partout en France et hors de France. Autour des terres nourricières, autour de la transition écologique énergétique, etc., etc. Réflexion active pour inventer et construire des alternatives. Le week-end des 3 et 4 août. À Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique.
Sixième Alter Village d'Attaque, c'est cette année le comité Attaque Audou qui accueille l'Alter Village, donc du 18 au 25 août à la ferme La Batailleuse du Clage de Franche-Comté. blog.attaque.org/altervillage/.
Et si vous avez raté toutes ces dates à la fois festives et militantes, n'oubliez pas la fête de l'Humain qui sera en septembre, 13, 14, 15 septembre à la Courneuve comme d'habitude. Ce qui termine notre émission, on dit merci à Alain Marcus pour son intervention téléphonique, à Jean-Marc, à Patrick, à Gaël, à Boris pour l'agenda et bien sûr à Claude pour la technique. Bon
et
été et on écoute EST, Dolores in the Show Stand.